Est-ce la bonne décision ? Quelque chose ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts.
Avec Anne-Sophie Alsif, chef économiste du cabinet d'audit BDO France et professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne, que l'on peut lire dans Forbes une fois par mois. Céline Antonin, économiste à l'OFCE, qui a coécrit Le pouvoir de la destruction créatrice, innovation, croissance et avenir du capitalisme chez Odile Jacob. François Eckhall, fondateur de Fupeco.fr, professeur d'éco à Paris 1. Tous les jours, quand j'évoque ces histoires de dépenses publiques, les gens m'écrivent qu'il faut arrêter d'aider l'Ukraine. Il y en a encore deux, là, ce matin, qui viennent de venir. Le problème, c'est qu'on aide les Ukrainiens. C'est systématique, ça ressort tout le temps pour faire arrêtons d'envoyer de l'argent à l'Ukraine. Ben voilà, arrêtez de faire la chasse.
Je rappelle quand même qu'on est parmi les pays qui ont qui transfèrent le moins d'argent à l'Ukraine. Même en euros, sans même parler en pourcentage du PIB, même en euros, on en voit beaucoup moins que la plupart des pays de l'Est.
En tout cas, c'est une réaction que je lis depuis systématiquement.
Mais c'est complètement absurde.
Depuis des jours et des jours et des jours, on tape encore sur les classes moyennes supérieures. On fait la chasse aux chômeurs, voilà comment... Bonjour, je suis retraité, plus je vous écoute, plus j'ai envie d'augmenter mon taux d'épargne pour mes enfants. Bon, c'est sympa, voilà.
Là, il faut faire l'inverse, justement.
Ah ben voilà, oui, il faut faire l'inverse. Et que, voilà,
Cela dit, c'est vrai que cette histoire des retraités, enfin bon, vous connaissez mes positions, l'histoire des retraités sans arrêt, enfin voilà, grand coupable de... Enfin, en tout cas, qui ont bénéficié de l'indexation, etc. Enfin bon, je pense pas que ce soit la solution de dire on va appauvrir les retraités, mais bon, on a déjà eu l'occasion.
Ah on a eu le débat, et moi j'en ai reparlé avec Erwan Tison qui n'a pas du tout votre avis.
Oui, je sais.
Avec Maxime Zbahi pour considérer que l'indexation absolue sur l'inflation.
Mais ce qui est incroyable, c'est que pendant des années, comme on indexait effectivement sur les prix et pas sur les salaires, les retraités, là on disait rien, hein, parce que les salaires augmentaient plus vite que les prix. Et la fois où on a l'inverse, effectivement, on tape sur les retraités.
C'est quand qu'on a désindexé sur les salaires pour indexer sur les prix.
C'est 93.
Parce que bon, effectivement, parmi les éléments.
Après le public, c'est après.
Ouais. Parmi les éléments constitutifs de la croissance, il y a l'investissement des entreprises, on en a parlé, il y a la consommation, bon, il y a les stocks des entreprises, c'est une variable un petit peu plus complexe, et il y a les échanges commerciaux. Ouais. Et ce qui aujourd'hui fait le plus de mal à la balance commerciale de la France, évidemment, c'est le prix de l'énergie, puisqu'on importe l'intégralité de l'énergie que nous brûlons. Or, on constate, à Céline Antonin, que les prix baissent, plus qu'anticipé. On était hier sur le mégawattheure au gaz naturel à 22,40 €.
Tout à fait.
Voilà, aux Pays-Bas. Et on a retrouvé des prix d'électricité qui nous ramènent à 2021. Est-ce que là, on est face à un contre-choc énergétique que l'on n'avait pas anticipé et qui peut nous faire le plus grand bien, d'après vous ?
Alors, c'est vrai que ce que vous citez sur le gaz naturel, on a divisé par 10, en fait, entre, disons, l'été 2022, le plus fort de la crise, et aujourd'hui, sur le TTF, donc néerlandais, donc c'est-à-dire l'indice spot qu'on regarde habituellement sur le gaz. Donc c'est vrai que c'est une baisse qui est majeure. On revient pas tout à fait au niveau pré-crise, mais presque.
On était monté à 250.
On était monté à
250.
Oui, tout à fait.
En août 2022.
Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Alors bon, ça s'explique par un certain nombre de facteurs, hein, et notamment le fait qu'on a baissé en fait en Europe notre consommation de gaz. Donc par rapport à d'autres pays qui l'ont augmenté, notamment en Asie. Mais nous, on a fait cet effort, donc on a été assez vertueux. Puis après, il y a des conditions de production qui font qu'on a été quand même assez bien approvisionné. Il y a le GNL aussi qui est monté en puissance, donc qui nous a permis d'avoir plus de gaz, notamment américain, puisque les Américains en 2023 ont fait effectivement un assez gros effort. Donc disons que tous ces facteurs font que pour les années 2024-2025, on s'attend plutôt à garder un prix autour de... on va dire 30 € le mégawattheure. Enfin, en tout cas, si on reste à ce niveau-là, c'est une très bonne nouvelle.
C'est un prix historiquement normal, environ.
Alors, un petit peu plus haut que ce qu'on avait. On n'est pas du tout au niveau qu'on a connu. Ça, c'est pour le gaz. Pour le pétrole, on est autour de 80 $ le baril. Et c'est vrai que malgré les conflits en mer Rouge, malgré tout ce qui peut se passer...
Tout ce qui devait faire monter le baril de pétrole ne produit pas d'envolée du baril de pétrole.
Oui, mais parce qu'en fait, c'est vrai que là encore...
Tension au Proche-Orient, il ne s'est rien passé. Tension en mer Rouge, il ne s'est rien passé.
Alors, c'est vrai que ça a ajouté une prime de risque, mais en fait, les fondamentaux sont plutôt tels que l'OPEP annonce à nouveau de nouvelles coupes pour 2024 en disant on va encore réduire d'un million de barils jour la production parce que en fait il y a encore un déficit en faveur de l'offre. Donc voilà, donc malgré tout, on a plutôt une demande qui est plus faible qu'anticipée. Ça c'est la mauvaise nouvelle, hein, c'est-à-dire que c'est plutôt parce qu'on consomme moins de pétrole. Dans les pays de l'OCDE, on stagne depuis très longtemps.
C'est la mauvaise ou bonne nouvelle. Oui, la demande est moins élevée que prévu, nous a dit l'AIE cette semaine, mais ça veut dire que le ralentissement a des bons côtés dans la mesure où il réserve un petit peu les déséquilibres.
Puis on a une intensité énergétique qui a baissé aussi, mais en tout cas, c'est vrai que c'est les pays hors OCDE qui font toute la demande, hein, la Chine en tête, hein, puisque c'est l'essentiel de la demande, de la croissance de demande de pétrole. Donc voilà, donc ces fondamentaux sont tels qu'on a une offre assez bien approvisionnée, des États-Unis qui produisent pas mal.
Canada-Brésil aussi. Hein,
Canada-Brésil aussi. D'ailleurs, les États-Unis, cette année, les prévisions de l'AIE sont plutôt assez basses pour cette année, mais en fait, il n'empêche que globalement, on a plutôt un équilibre de l'offre et de la demande. Donc, à moins d'un grand choc majeur, enfin de tensions en mer Rouge, etc., qui s'accroissent, normalement, on devrait rester autour de $80. Donc là encore, on attend plutôt un petit soutien à la croissance venant de l'énergie.
Il faut bien que le ralentissement ait du bon pour nous, j'ai envie de dire. Voilà. Mais c'est sûr qu'on est devant une bascule, dont on est passé du choc énergétique ultra-violent à une sorte de contre-choc énergétique. Tout à fait. Et ça peut nous faire le plus grand
alors,
bien.
Alors, en revanche, j'allais dire là où peut-être il y aura un souci, c'est sur la question des chaînes d'approvisionnement, parce que malgré tout, c'est vrai que ce qu'on peut vivre en mer Rouge et autres crée quand même des problèmes d'approvisionnement. Je sais que notamment en Allemagne, ça a quand même quelques incidences sur la production.
C'était l'usine de Tesla à Berlin qui tout a dû se mettre à l'arrêt parce qu'elle n'avait plus les composants qui arrivaient suffisamment vite en passant par la mer Rouge. Quand vous devez passer par le cap de Bonne-Espérance, les trajets sont un petit peu plus longs. Bon, eh bien écoutez, ça peut y avoir un élément positif dans ce contre-choc énergétique. Mais c'est vrai que moi j'en perds un peu mon latin sur les prix du pétrole qui n'ont pas bougé avec le Proche-Orient, qui n'ont pas bougé avec la mer Rouge, alors que c'est un marché hyper volatile qui a tendance à surréagir quelquefois à des éléments géopolitiques. Ça m'a un peu surpris.
Oui, c'est vrai, et en même temps, c'est vrai qu'en tout cas, à moyen terme, on observe que c'est quand même vraiment les fondamentaux qui jouent. Et là, on a plutôt un excédent de 5 millions de barils jour qui existe au sein des pays de l'OPEP, etc. Donc, de l'OPEP et non-OPEP. Donc, en fait, voilà, il y a plutôt une production qui est assez forte.
Réjouissons-nous. Oui, écoutez, je crois que c'était Marie qui me disait que vous voulez parler à peine d'épargner autant, finalement. Il y a des raisons d'espérer. Le financement de la protection sociale, comment faire autrement? Alors, vous avez vu, François Eckel, que le MEDEF nous ressort des idées complètement révolutionnaires, TVA sociale, CSG sociale. Justement, j'ai pas lu votre dernière note d'actualité. C'est votre recette aussi?
Alors, c'est une pure coïncidence.
mais c'est votre recette de dire qu'on va utiliser la CSG ou la TVA.
Ce que je rappelle, c'est l'histoire du financement de la protection sociale. On est parti d'un système qu'on appelle assez bismarckien, où on a des allocations qui sont liées à des cotisations sociales. Voilà, on est passé à quelque chose qui est plus beveridgien, avec des allocations universelles. L'assurance maladie, elle est universelle maintenant. Et un financement qui est de plus en plus par l'impôt. Mais c'est devenu aujourd'hui extrêmement compliqué. J'ai mis dans ma note un schéma qui présente les canaux de financement de la sécurité sociale qu'on trouve dans les annexes des lois de financement de la sécurité sociale. C'est une usine à gaz incompréhensible et qui bouge tout le temps. On rajoute des tuyaux, retire des tuyaux, enfin voilà. Donc c'est incompréhensible. Ça veut dire d'ailleurs que le solde trou de la sécu, ça ne veut rien dire.
Quand vous dites trou de la sécu, tout le monde comprend que c'est parce qu'il y a du déficit.
Oui, mais il y a du déficit. On peut augmenter ce déficit ou réduire ce déficit en manœuvrant une vanne qui permet d'alimenter le je ne sais quelle caisse de sécurité sociale par à partir du budget de l'État.
Oui. C'est, à ça partir du budget de l'État.
Bien sûr. Oui. Ou d'affecter des impôts, on affecte de la TVA, on affecte de la taxe sur les salaires, on affecte des tas d'impôts divers et variés. Et donc, en fait, non, ça n'a aucun sens. La seule chose qui a un sens pour moi, c'est le déficit public total, consolidé, de l'ensemble des administrations publiques. Et au niveau international, d'ailleurs, heureusement, c'est la seule chose qui est regardée. Personne ne va regarder dans les organisations internationales le déficit budgétaire d'un côté et le déficit de la Sécu de l'autre. Ça n'a aucun sens. Mais ça pourrait avoir un sens, et je pense qu'il faudrait quand même clarifier tout ça, si on faisait une distinction plus claire entre ce qui relève d'un côté de l'assurance, par exemple l'assurance vieillesse, et ce qui relève de la solidarité. La maladie, maintenant, c'est de la solidarité. Et si en face, on mettait, pour ce qui est de l'assurance, on met en face des cotisations, en effet, et pour ce qui est de la solidarité, la maladie par exemple, on le finance par des impôts. Alors, dans l'assurance vieillesse, il y a une partie de solidarité, parce que vous avez des pensions de retraite qui sont liées, les majorations pour enfants, etc. Donc pour ça, celle-là aussi devrait être financée par l'impôt, à travers un vrai fonds de solidarité qui permette de bien distinguer dans les pensions ce qui résulte du fait que vous avez payé les cotisations et ce qui résulte du fait que pour des tas de raisons voilà, de redistributives, on vous donne un peu plus de pension parce que vous avez eu des enfants, parce que vous avez été au chômage, etc. Donc, mais ceci conduit en effet, c'est là où je rejoins involontairement le MEDEF, c'est-à-dire que dans mon schéma, bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'impôts pour financer la sécurité sociale.
Et moins de cotisations.
Et moins de cotisations, typiquement, pour la maladie. Bah, les cotisations employeur-maladie, dans ce schéma, je le remplace par des impôts. Après, la question, c'est quels impôts ? Ça peut être la TVA, ça peut être la CSG, ça peut être des impôts sur les entreprises. Si ça passe par le budget de l'État, ça peut être indirectement par de l'impôt sur les sociétés ou des impôts sur la production. C'est un autre sujet. Mais voilà, déjà arrivé à faire, je pense... Alors, c'est un rêve, hein, parce que je sais bien que... Voilà,
ça, vous avez fait une chronique.
C'est un schéma.
Vous avez fait une chronique de nuit en dormant.
Voilà. Je pense que... Non, la seule chose que je dis, c'est qu'il faut quand même avoir ce schéma en tête et pas trop s'en éloigner. Voilà. Donc, c'est tout.
Ça vous inspire, TVA sociale, CSG sociale, nouvel impôt pour financer une partie de ce qui était de l'assurance qui serait considérée comme de la solidarité.
Oui, ça m'inspire surtout qu'on... Effectivement, le schéma était beaucoup plus clair avant. Enfin, sans vouloir dire c'était mieux avant, mais il se trouve que c'est vrai qu'on a dévié de plus en plus vers... Non, mais on a changé...
4,2 actifs pour un retraité, on pouvait se permettre d'avoir un système qui reposait sur le travail.
C'est vrai qu'on est allé de plus en plus d'un système bismarckien, un système beveridgien, enfin, dans l'idée en tout cas. Et c'est vrai que je trouve que le système bismarckien marchait assez bien. Et que là, c'est vrai que l'espèce de coexistence qui est très floue actuelle n'est pas très satisfaisante, je trouve, d'un point de vue, effectivement, même pour effectivement comprendre. Et même quand on doit, par exemple, chercher des économies, du coup, ça. Ça crée une faible lisibilité des dispositifs. De toute façon, je pense que c'est...
L'avantage de la TVA sociale, c'est que vous pouvez avoir éventuellement augmenté le salaire net. Alors que si vous faites la CSG sociale, forcément, là, vous avez une baisse de pouvoir d'achat.
Oui, c'est vrai. Enfin, de toute façon, la CSG, c'est une grande arnaque.
Pourquoi ? En gros, c'est une grande arnaque.
Non, mais après, c'est un autre sujet. Un autre sujet, mais par exemple, entre la CSG déductible et la CSG non déductible, d'ailleurs, j'aimerais écrire un article sur le sujet, parce que vous remarquerez qu'on déclare dans son revenu, donc on déclare un revenu avec une part de CSG qu'on ne touche pas, en fait. Et du coup, je trouve que le taux d'imposition qu'on affiche pour les ménages dans l'impôt sur le revenu est un taux fictif, en fait, puisque c'est un taux qui ne prend pas en compte, en fait, qui prend en compte un revenu fictif. Donc, pour moi, il faudrait déclarer un vrai revenu, et en fait le taux d'imposition serait plus élevé. Donc je trouve que là il y a quelque part une malhonnêteté intellectuelle, et d'ailleurs j'écrirai dès que j'aurai le temps sur le sujet.
La CSG déductible, c'est quand même aussi un truc complètement... Parce que c'est très contre-intuitif de voir qu'on a un net imposable qui est supérieur, dont le montant est supérieur.
Tout à fait. Vous déclarez un revenu que vous ne percevez pas, ce qui est quand même en soi, enfin, je veux dire, un principe de lisibilité, transparence et de clarté de l'impôt. Je trouve que c'est...
Mais ça résulte de la même logique que le financement de la sécurité sociale, et c'est des usines à gaz. C'est-à-dire, à des moments, et on a fait des arbitrages pour ne pas pénaliser certains, quand même avoir plus de recettes. Donc on a dit, bon, on va augmenter la CSG, pas totalement déductible, parce que ça coûterait trop cher. Voilà, c'est des arbitrages budgétaires au fil du temps qui s'accumulent.
On aime bien accumuler des couches, et on aimera rarement faire un peu de simplification. Oui. C'est vrai que la simplification en matière fiscale, c'est pas mal aussi.
Il y a un moment où vous avez tellement de couches, la simplification devient juste ingérable. C'est ingérable.
Le problème, c'est qu'il y a un moment où la réforme fiscale, la simplification, le système, on part d'une situation tellement compliquée que forcément, si on veut faire une réforme fiscale à budget constant, il y a des gagnants et des perdants. Et si on part d'une situation très compliquée, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de perdants, beaucoup de gagnants. Personne n'y comprend rien et tout le monde a l'impression d'y perdre.
Personne n'y comprend rien. Si vous vous lancez dans une remise à plat totale du financement de la protection sociale, des aides aux entreprises, personne n'y comprend rien. Mais sinon, juste en un mot, et puis après on parle du dollar, c'est promis, Anne-Sophie. Si on devait jouer sur TVA ou CSG, est-ce que vous avez une... Moi je me dis que la CSG, c'est peut-être la meilleure solution. Mais... Non.
Moi, je préférais la CSG. Oui. Pendant longtemps, j'ai dit que quand j'étais à Bercy, notamment, que la TVA sociale, ça avait des risques inflationnistes. Maintenant, je pense que c'est probablement moins vrai.
Plus TVA
pour faire payer les touristes. Alors, Philippe, votre copain Philippe Aguillon, il est plus CSG, lui. Il est là il y a quelques jours.
Il y a parfois quelques dissensions. Après, c'est pas un avis très ferme.
Comme quoi, François Eckhall, on est super doué pour faire des usines à gaz, mais on a été super bon pour inventer les assiettes. Les impôts à assiette large et à taux bas, quand même.
Oui. Ah oui.
Quand même du super made in France.
D'ailleurs, c'est ce que les agences de notation aussi souvent remarquent en disant qu'on a une très bonne capacité et en termes de création fiscale et de levée d'impôts.
Et de levée d'impôts, c'est vrai qu'on est très
fort. Vraiment un point très positif
et on aurait
pour
même,
investir en France.
On aurait même une capacité à augmenter la TVA qui, contrairement à beaucoup de choses, est moins élevée chez nous qu'ailleurs.
On est dans la moyenne. Contrairement, en effet, à beaucoup d'impôts, on est nettement au-dessus de la moyenne. Là, on est dans la moyenne.
On a du mal sur les impôts de production à retrouver une norme qui corresponde à peu près à ce qui se pratique ailleurs. On y est arrivé sur la fiscalité sur le capital. On y est arrivé sur l'impôt sur les sociétés. Et là, sur la TVA, ben, je crois que si... elle est complètement mitée, la TVA, de toute façon. Donc, déjà, si on l'a démitée avant d'augmenter le taux maximum de 20%. J'avais promis à Anne-Sophie qu'on parlerait du dollar. Ce sujet est intéressant, et puis il est très BFM Business. On a eu les chiffres du London Foreign Exchange Committee hier, qui regarde la part du dollar dans l'ensemble des transactions observées à Londres en 2023. Cette part du dollar a monté. Elle a monté, elle atteint 45% des transactions. La part de l'euro a reculé de 2 points, d'un peu plus de 2 points, pour atteindre 16,6% des transactions. Il y a eu au moins 3 ou 4 chroniques ces derniers mois, Anne-Sophie, nous disant dédollarisation, la fin du dollar roi, la fin du privilège exorbitant du dollar. Chaque fois que je vois le titre, je me dis, je vais lire la chronique, mais je connais la fin, ça va être, peut-être un jour, mais pas aujourd'hui. En fait, le dollar est là, et c'est cette force incroyable du dollar qui permet à l'Amérique d'avoir des déficits jumeaux complètement intenable pour un autre pays.
Alors oui, complètement. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus en termes de transactions, en termes de commerce. Il n'y a pas aujourd'hui une monnaie qui peut vraiment rivaliser avec le dollar au niveau de sa place en termes de confiance, des investissements et aussi de dette. Vous l'avez dit, aux États-Unis, ça leur permet d'avoir toute leur politique budgétaire, leur politique de subvention. Donc là, il n'y a pas de débat là-dessus. Par contre, ce qui est plus intéressant, c'est pas que de regarder la part du dollar dans les transactions, mais également la part du dollar dans les réserves. Dans les différents pays. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des tendances différentes. Alors, on n'est pas du tout dans « c'est la fin du dollar » par rapport, par exemple, à la monnaie chinoise qui n'arrête pas d'augmenter. On n'est pas dans ce scénario-là. Par contre, on peut avoir un recul du dollar au profit d'une diversification vers d'autres monnaies. L'euro, la livre, d'autres monnaies où les États, justement, essaient de diversifier par rapport au risque de change et surtout au risque géopolitique. Et ça, c'est une tendance qu'on voit pas importante et qui a explosé depuis le Covid, mais en tout cas une tendance qui existe, notamment dans les économies asiatiques, et qui est aussi intéressante dans un contexte, on va dire, géopolitique. Qu'est-ce qu'on a vu donc cette année, enfin en 2023, à la fin de l'été, les BRICS, donc une partie des BRICS se sont réunis en Afrique du Sud.
Sud global.
Voilà, exactement, le Sud global, avec bien évidemment en première ligne la Chine, pour avoir un discours justement d'avoir un système monétaire alternatif, notamment au dollar, que le dollar justement avait une suprématie économique, géopolitique et de défense, et qu'il était important pour des pays comme notamment la Russie, la Chine, d'avoir un autre canal de financement de monnaie, et que ça veut dire avoir, pas remettre en cause le dollar, mais en tout cas peut-être pousser vers une autre monnaie qui soit plus en adéquation avec la problématique de ces pays. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est un jeu politique. Alors bien évidemment, vous l'avez dit dans les chiffres, on le voit pas, mais il y a vraiment cette petite musique qui monte, notamment sur ces pays qui n'ont pas notre même vision par rapport au conflit avec l'Ukraine et par rapport au non-alignement. On le voit dans les pays d'Amérique du Sud, dans les pays africains, qui vont parfois plus soutenir la Russie, en se disant, en effet, aujourd'hui, la seule force encore des États-Unis, c'est leur monnaie et c'est le dollar. Et donc, si on veut vraiment, les vaincre, en tout cas, remettre en cause cette hégémonie, c'est par là qu'il faut aller. Alors, la Chine en première liste, mais pas seulement. Et là, c'est vrai que dans ces discours-là, donc ces déclarations qu'il y a eu, on a vu la déclaration fin août, il y avait vraiment l'idée d'essayer d'avoir une monnaie alternative. Alors, bien évidemment, la Chine pousse pour sa monnaie, mais pas seulement, et d'essayer d'avoir des transactions qui soient de moins en moins en dollars, avec des objectifs aussi de réserve de change qui soient de plus en plus diversifiés. Et ça, à mon sens, c'est ça qu'il faut vraiment suivre, plus que le niveau des transactions, parce qu'on va être dans un message politique qui peut être de plus en plus. Je vous rappelle quand même que pour la Russie, on avait dit, la guerre n'avait pas été préparée, etc. Mais quand vous avez regardé 10 années avant comment la Russie, la Banque centrale de Russie avait géré ses réserves de change, on voit qu'il y avait l'idée...
Elle s'était dédollarisée au maximum depuis l'invasion de la Crimée en 2014.
Et donc c'est vrai que quand vous regardez les l'évolution des réserves de change, à mon sens, c'est aussi un bon indicateur, je ne dis pas pour prévenir les conflits internationaux, mais en tout cas de comprendre cette géopolitique monétaire.
Céline Antonin, là-dessus, vous lirez.
Oui, alors, rebondir un peu sur ce que dit Anne-Sophie Alsif, moi, je pense que le privilège exorbitant du dollar, il existe bel et bien. Déjà, parce que le dollar, c'est donc la monnaie de libellé, hein, on parlait du pétrole tout à l'heure, donc tous les prix, l'or, le pétrole, etc., tout est libellé en dollars. C'est la monnaie véhiculaire aussi, puisque il y a 88% des transactions encore aujourd'hui qui se font en dollars dans le monde. On est à 32% pour l'euro, donc il y a une partie euro-dollar, hein, bien sûr, mais je veux dire, donc c'est vous dire, hein, 88%, bon, ça en dit long. Il y a 80% des importations aussi, qui ne passent pas par le sol américain, qui sont libellées en dollars, donc c'est pour illustrer ça. C'est la monnaie d'ancrage aussi de 60% des pays du monde, donc puisqu'il y a différents régimes de change possibles pour pas mal de pays, donc 60% s'ancrent sur le dollar, donc voilà, et c'est la monnaie de réserve malgré tout qui reste quand même encore une monnaie de réserve importante, et c'est vrai que ça leur donne un privilège assez exorbitant. Parmi ces privilèges, les sanctions qu'ils peuvent imposer aux autres pays du monde, hein, on l'a vu, Venezuela, on l'a vu pour l'Iran, etc., donc ça c'est vrai que... Et alors comment en sortir? Alors je suis d'accord sur la tentative des monnaies chinoises, etc., de concurrencer. Après, moi, il y a l'idée qui a été reprise, je ne vais pas refaire l'historique de Keynes avec le Bancor, etc., pour sortir de ce privilège exorbitant du dollar, mais il y a les droits de tirage spéciaux du FMI, dont on a souvent dit que ça pouvait être une concurrence.
Oui, donc on a souvent dit que ça pouvait.
Bon, ça les pouvait,
DTS,
ouais.
Du FMI, mais...
Alors, bon, mais le problème des DTS... Enfin, voilà, bon, sans rentrer dans les détails, le problème, c'est que, en fait... De façon très ironique, la plupart des tirages se font en dollars. Donc, en fait, c'est un moyen de renforcer encore la suprématie du dollar. Parce qu'en fait, les pays demandent du dollar quand ils utilisent leurs droits de tirage. Mais c'est vrai que ça pourrait être un embryon. En tout cas, moi, j'y crois assez. C'était Stiglitz qui avait reparlé de cette idée dans les années 2000. Je pense que c'est effectivement peut-être un moyen de diversifier. Enfin, c'est un moyen d'avoir un panier de monnaie, en tout cas, qui permettrait de concurrencer le dollar. Mais c'est vrai que
il existe ce panier de monnaie, Céline.
Bah, oui, je sais.
Pour l'instant. C'est un peu virtuel, en fait.
Oui, mais peut-être que voilà, c'est vers ça qu'il faudrait aller. En tout cas, moi, je pense que ces droits de tirage, c'est peut-être une idée pour...
Aucune de vous deux ne m'a dit, en tout cas, on constate que l'euro a perdu son pari.
Moi, j'allais dire l'euro, quel numéro de téléphone? Non, c'est un peu le problème.
On a toujours tendance à dire, du coup, l'euro a perdu son pari, qui était quand même de positionner en quasi-altéré.
C'est la deuxième.
Et perdu son pari. Bon, je pense que même quand l'euro a été introduit, personne ne s'est dit que l'euro allait pouvoir être à 50-50 ou vraiment concurrencer de là.
C'est une bonne monnaie de diversification.
Mais c'est vrai qu'on y est. On va pas supporter le dollar.
Mais on a pensé que l'euro, ça allait faire le reste. Faire l'Europe sociale, l'Europe budgétaire, l'Europe politique.
Malheureusement,
on a fait peser un lourd poids sur l'euro.
Mais d'ailleurs, si j'ai bien compris, la Banque centrale russe, en se dédollarisant, avait placé ses réserves en euros. Mais j'ai l'impression que là, en ce moment, elle se pose des questions. Se demande si c'était la bonne stratégie.
Le renminbi, c'est l'avenir.
Une fois, je ressors toutes les chroniques sur va-t-on vers la fin du dollar. Voilà, il y en a eu pas mal. Alors généralement, elles aboutissent
toujours à
la conclusion que c'est la même conclusion que Céline.
J'en ai écrit une aussi avec cette conclusion.
Mais à mon sens, aujourd'hui, on n'est pas dans un problème que monétaire, mais aussi politique et comment certains pays vont utiliser cela. Et ça, c'est assez intéressant à regarder, hein, puisque là, on a quand même de plus en plus de sommets avec ce sujet qui revient et avec des prises de position qui peuvent être.
La dernière prise de position en date, c'est la Corée du Nord, comme par hasard, Nord qui dit.
Mais il faut quand même rappeler que oui, et qu'à l'époque, en fait, même l'idée était de sortir justement de l'étalon or. Et en fait, c'était pas. Moi, je pense que c'est intenable d'avoir en fait une monnaie nationale qui est mue par des considérations nationales pour gérer l'ensemble de l'économie du monde. En fait, quelque part, on peut pas caler l'ensemble des transactions internationales sur ce qui se passe dans un pays. Donc, en fait, c'est vrai qu'il faudrait l'appeler de ses voeux, cette diversification plus poussée.
Le club des BRICS.
Ouais. Mais on dit site global maintenant.
Site global.
On sait pas trop ce qu'est le site global, mais allez, on fait un peu de prix plancher. On a 3 minutes 50 pour se casser la tête, que ça a commencé. François, vous avez difficile de temps de parole dans les dernières minutes. Vous avez accueilli comment l'histoire du prix plancher promis par Emmanuel Macron aux agriculteurs
Ça m'a rappelé la politique agricole commune des premières années, en fait. Parce que c'est ça qu'on faisait.
Bah, oui.
si vous mettez aujourd'hui les prix sur les marchés agricoles, ils résultent de la confrontation de l'offre et de la demande. Si vous mettez un prix au-dessus du prix de marché, vous allez attirer des importations. Bon, hein. Et vous allez, donc vous êtes obligé de taxer les importations pour maintenir ce prix, et vous allez être obligé de subventionner les exportations. C'est ce qu'on a fait avec la PAC pendant les 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus combien. Alors, et pour maintenir quand même ces prix au-dessus des prix de marché, il y avait des organismes, des offices agricoles qui achetaient le marché, qui achetaient jusqu'à ce que le cours remonte. Voilà. Et donc, et comme on augmentait ces prix de marché pour maintenir, pour faire en sorte que les agriculteurs les moins productifs aient des revenus quand même suffisants, etc. Donc on les augmentait régulièrement quand même beaucoup. Donc on produisait de plus en plus et on stockait de plus en plus. On s'est retrouvé, je crois qu'au maximum, on avait 60% de la consommation annuelle de beurre qui était en stock, invendable. Et tout ça coûtait cher, hein, puisqu'il fallait payer ses achats, il fallait payer les subventions à l'exportation. Et comme on était globalement excédentaire, les subventions à l'exportation coûtaient plus cher que ne rapportaient les taxes à l'importation. Donc c'était un truc qui coûtait très cher aux finances publiques, qui conduisait les consommateurs à payer des prix très élevés, et qui profitait en fait surtout aux agriculteurs les plus productifs, hein, les grands céréaliers de la Beauce, aucun problème, hein, parce que ils vendaient à des prix nettement supérieurs, donc ils avaient une rente, ils avaient des prix nettement supérieurs au prix de marché. En revanche, le petit agriculteur de montagne, c'est vrai qu'il vivait pas beaucoup mieux. Donc c'était un truc complètement absurde, et c'est ça qu'on est en train de refaire.
Ce que vous racontez,
si on va jusqu'au bout,
oui, mais l'histoire de la politique agricole commune qui a conduit à ces dysfonctionnements où elle a fini par créer une surproduction complètement anormale, on est en train de produire exactement le même truc.
Mais avec la loi Egalim, on essaye de viser avec un machin. Je conseille de lire la loi Egalim, c'est incompréhensible.
Je serais moins sévère avec la loi Egalim qui suppose à chaque négociation d'essayer de fixer de manière un petit peu technique un prix de matières premières agricoles.
Mais ça ne peut pas marcher parce que de toute façon, il y a des importations. Si les centrales d'achat, etc., ne veulent pas, trouvent que le prix finalement est trop élevé, ils achètent à l'étranger.
J'avoue, je trouve qu'en plus, il y a une grande incohérence à vouloir fixer d'un côté un prix plancher et de l'autre à multiplier les accords de libre-échange avec les pays en matière agricole. Moi, ça me semble un peu schizophrène comme attitude.
Le problème, c'est moi, j'ai regardé le bilan de pas mal d'accords de libre-échange. Il y a des filières très heureuses.
Oui, tout à fait.
Il y a la filière bovine, la filière élevage.
Ah oui, mais bien sûr. Mais c'est ça le problème, c'est que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Mais en plus, ce prix plancher, moi, il y a une question aussi que je me pose, c'est qu'on le fixe par rapport à quoi? C'est-à-dire, si c'est par rapport à l'exploitation moyenne, les gros exploitants vont être très contents. Ils auront des prix plus bas, et puis voilà. Donc là encore, ça introduit
les inégalités de la PAC à l'ancienne.
En fait, il n'y en a pas un de vous trois qui est là pour me défendre le prix administré, quoi, une fois de plus. Chaque fois que je mets des économistes autour de la table, c'est à peu près toujours la même chose. Si vous voulez trouver une solution vraiment définitive aux questions de gaz à effet de serre, il y aura la taxe carbone, on n'y coupera pas. Si vous faites des prix administrés, vous aurez ce qui se passe toujours quand on fait des prix administrés. J'encadre les loyers, pénurie d'appartements à louer.
Fermer tout le marché.
Voilà, j'encadre, je sais pas.
En plus, c'est un prix, c'est français. Enfin, je veux dire, pas européen.
Non, c'est pas européen.
Ils ont
au niveau européen. Ça marchera pas de toute façon.
Vous avez dit qu'il y avait l'idée de le mettre au niveau européen.
Oui, c'est ça.
Mais
un égalité européen.
Je suis pas sûr que les pays soient d'accord.
Mais tout le monde va pas être d'accord avec ça.
Ça me fascine quand même qu'on puisse reproduire ce genre de. Toutes ces espèces d'idées qui ont l'intuition de la bonne idée facile à mettre en place est tellement évidente.
Après, il y a une crise qui est assez majeure. Donc
la crise est majeure, oui. Mais
voilà,
on a un problème de compétitivité du secteur agricole français. Ça coûte plus cher aujourd'hui, même entre la France et l'Allemagne, d'aller ramasser des fruits dans les champs.
Non, mais on a deux secteurs agricoles. Agricole hyper compétitif. Oui, les céréaliers de la Beauce, ils n'ont pas de problème pour vendre leur blé. en revanche, on a une agriculture de montagne, d'élevage, etc., qui effectivement n'est pas compétitive.
Merci d'avoir été là pour évoquer tous ces sujets. Fipeco.fr, n'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà, dernière note en date, donc comment modifier le financement de la protection sociale. Merci Anne-Sophie Alsif, Céline Antonin, François Eckhall, on se retrouve demain à 9h.
Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.